Vous écoutez le studio Kalangou, bienvenue, c'est l'heure du journal en français dans une présentation de Diallo Mariama Kenda. Il est 18h, voici nos titres. Visite hier du commandant en chef de la force française de l'opération Barkhane, Patrick Bretou, au Niger. Le point de la situation des opérations de la force Barkhane en appui aux forces nigériennes a été abordé lors du tête-à-tête avec le président Issoufou Mamadou. Les pluies diluviennes du 14 juin dernier qui se sont abattues sur le département d'Ungal ont causé d'énormes dégâts. On fait le point sur le bilan global de l'inondation avec le maire d'Ungal. Le respect des délais par les tailleurs pour le retrait des habits des clients à l'occasion du Ramadan, c'est de cela dont il sera question dans la partie magazine de ce journal. Patrick Bretou, commandant en chef de la force française de l'opération Barkhane, a été reçu hier en audience par le chef de l'État Issoufou Mamadou. En fin de mission, le général de division dit avoir évoqué avec le président de la République la situation politique et militaire dans l'ensemble du Sahara et notamment au Mali. Aussi, Patrick Bretou a fait le point de la situation des opérations qu'il mène en appui de forces armées nigériennes.
En liaison avec les pays du G5, les armées de ces cinq pays, appuyées par la France, mènent des opérations conjointes transfrontalières qui visent à entraver les flux de ces terroristes et, quand on les intercepte, à les neutraliser. Et pour ce qui concerne la coopération directe entre Barkhane et les forces armées nigériennes, nous avons mené de nombreuses opérations dans le nord du Niger, à partir des bases de Madama et d'Aguelal, près d'Arlit, afin d'entraver les flux de terroristes qui viennent de Libye, qui vont vers le nord Mali. Donc nous avons intercepté de nombreux pick-up, de nombreux terroristes, de la drogue, de l'armement, durant toute cette année. Donc on peut considérer que la présence dans la durée des forces armées nigériennes et de Barkhane dans le Sahara a un impact important sur ces terroristes, parce qu'on les capture, on les neutralise, on en tue quelques-uns, et puis on entrave leur flux surtout. Et donc on leur interdit en fait de vivre normalement. Ils ont une pression permanente, ce qui fait que leur capacité de nuisance est diminuée. Boko Haram est encore présent dans l'état du Borno. Hein. Il a deux zones refuge, l'une qui est dans la région du lac Tchad et l'autre un peu plus au sud, dans la zone de la forêt de Sambisa et des monts Mandara. Il y a actuellement des opérations qui sont en cours, hein, menées principalement par les Nigérians au sud du Borno, mais par la force multinationale mixte autour du lac Tchad, effectivement en réaction à des incursions de Boko Haram, notamment à Diffa et dans la zone du lac Tchad, où Nigériens et Tchadiens ont subi des pertes.
Un propos recueilli par nos confrères de la Voix du Sahel. La formation du gouvernement en date du 15 avril avait suscité une polémique du fait du non-respect du quota des femmes au sein du gouvernement. La Confédération des ONG et associations féminines du Niger, Congafen, avait donc au lendemain de la formation du gouvernement rendu publique une déclaration dans laquelle elle a interpellé le gouvernement. Le Premier ministre Brigitte Raffini, à l'issue d'une rencontre, avait, selon la présidente de la Congafen, promis de remédier au non-respect du quota. Aujourd'hui encore, rien n'a été fait. La présidente de la Congafen, Madame Kako Fatmata.
Actuellement, il y a 8 femmes sur 42 postes ministériels. Donc là où le bas blesse, la loi sur le quota a été adoptée par les autorités de la 7e République. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, cette loi, nous sommes toujours au niveau du statu quo. Il n'y a rien de concret, parce qu'aujourd'hui, certes, nous avons rencontré le Premier ministre, où il nous a tenu promesse et qu'il nous a sollicité d'amener des CV des femmes, de faire des listes, donc choses faites. Jusqu'à présent, on attend, parce que chaque fois, nous ne voyons qu'on ne fait nommer que ceux qui sont dans les partis politiques. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour commander, on est là pour demander un droit. On va continuer à changer ce tout être de stratégie pour voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, soit chercher à ne plus parler de cette loi sur le quota, parce que ça n'a plus sa raison d'être, ou maintenant chercher encore autre source de sortie pour pouvoir amener ces autorités-là à respecter les textes fondamentaux de la République.
Vous venez d'entendre Madame Kako Fatmata, présidente de la Congafen. Le rapport mondial sur la situation de l'enfant a été publié le mardi dernier. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport en ce qui concerne le Niger? Sidikou Moussa, le coordonnateur de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONIN Niger, répond aux questions de Lauratou Ibrahim Gado.
Le rapport met un accent particulier sur l'égalité des chances entre les enfants.
Pourquoi l'égalité des chances entre les enfants?
Le constat qui est là, c'est qu'il y a des inéquités, il y a des injustices sociales et il y a également une bonne catégorie d'enfants qui est marginalisée, qui n'est pas en tout cas touchée par les actions directes des pouvoirs publics, tant dans le domaine, par exemple, de la survie et développement de l'enfant, je veux faire cas ici à la santé, tant à l'accès à l'éducation, tant à l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, tant à une alimentation saine, tant également à un environnement protecteur et tant aussi aux loisirs.
C'était Sidikou Moussa, coordinateur de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant. Le 14 juin dernier, de fortes précipitations se sont abattues sur le département de Ngal, causant ainsi d'importants dégâts. On fait le point sur le bilan global de l'inondation avec le maire de Ngal, Sidi Maman. Il est au micro de notre correspondant Moussa Maman.
Au niveau des ménages sinistrés, on a 972. Les personnes qui doivent être prises en charge, 6896. La situation en espèces animales mortes ou disparues, on a 340 bovins, on a 14 228 caprins, on a 14 854 ovins, on a 55 camélins, 273 asins et 5 équins. Nous avons 310 maisons effondrées, 171 jardins qui ont été touchés aussi, et 105 puits pastoraux et maraîchers en même temps. Les centres traditionnels, on a 8 qui ont été emportés. Nous avons aussi des dégâts sur les sites de la Kyrie Salée et aussi des destructions des sites paléontologiques, par exemple les sites des dinosaures et arbres fossilisés. C'est la situation globale à ce jour.
Propos recueillis par notre correspondant Moussa Maman à Agadez. L'accès à l'eau potable est satisfaisant pour le milieu urbain. Par contre, il l'est moins pour le milieu rural où beaucoup déforestent à fournir. C'est un bilan que tire Zaberou Yakuba, expert en eau et assainissement. Les acteurs de ce secteur sont en réunion de revue sectorielle. Ils examinent les activités menées l'année passée et surtout les résultats enregistrés dans les cadres des OMD afin de mieux s'attaquer aux ODD. Quel bilan sur l'accès à l'eau potable? La réponse de Zaberou Yakuba au micro de Amadou Moumouni.
Actuellement, en milieu rural, nous enregistrons un taux d'accès autour de 51%. En milieu urbain, nous sommes autour de 88%. Ce qui veut dire que, au niveau du milieu urbain, l'objectif du millénaire pour le développement est atteint et même dépassé, parce qu'il était fixé autour de 75%. On est à 88%. En milieu rural, par contre, les OMD n'ont pas été atteints, parce que les OMD étaient déterminés autour de 58% pour arriver à 58%, alors que nous sommes autour de 51%. Le déphasage, vous savez que le Niger est à peu près autour de 80% du monde rural. Et les besoins en termes d'alimentation en eau sont beaucoup plus cruciaux à milieu qu'en milieu urbain. En plus de cela, vous savez que l'alimentation en eau en milieu urbain a été prise en charge par la SPEN, Société Patronale d'eau du Niger, et l'exploitation du réseau a été donnée par un contrat à la SEN. Cette réorganisation au niveau du milieu urbain, ça a favorisé de booster l'alimentation en eau en milieu urbain.
Zaberou Yakuba, expert en eau et assainissement. Les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication ont débuté ce matin les soutenances de leur mémoire de fin de cycle. Après 3 années de labeur, ils sont au total 106 candidats à vouloir défendre leurs travaux en cette première session. Le directeur de la formation, des curricula, des stages et de perfectionnement de l'IFTIC, Touré Idrissa Garba nous donne plus de détails. Il est au micro de Moussa Hassan.
Cette année, nous avons au total 106 étudiants et élèves, c'est-à-dire 71 étudiants au niveau supérieur qui soutiennent la licence. Et au niveau moyen, j'ai 35 élèves qui vont défendre leurs travaux demain. Eux, c'est un rapport qu'ils soutiennent suivi d'une réalisation pratique, un film de 13 minutes ou une émission radiophonique de 26 minutes. Il y a 15 journalistes au niveau supérieur. Ils sont 23 dans la classe, mais il n'y a que 15 qui ont déposé les travaux. Les autres, certainement, ça va être pour la deuxième session, Inch'Allah. et au niveau moyen, ils sont 14 et tous ont déposé leurs travaux et ils sont programmés pour demain. Les mémoires sont réalisées en deux parties, une partie écrite et une partie filmée. La partie écrite, je vous jure que les documents, on rencontre beaucoup de coquilles, mais on fait avec parce que le niveau, il est général. La baisse du niveau, elle est générale. Nous avons plusieurs nationalités, mais on sent que même dans les autres pays, le niveau est en train de s'affaiblir. Mais nous faisons donc le maximum à notre manière pour relever le niveau de ces étudiants-là qui sont appelés à communiquer.
Propos recueillis par Moussa Hassan. Un mot de sport à présent. La 22e journée de championnat national première division débute demain. 7 matchs sont au programme. Vendredi, AS Fan contre AS GNN à Niamey. Samedi, à Arly, Takokana rencontre Espoir à FC. Urana affronte AS Sonidep. Dankaswa face Tabour à Maradi. Deux rencontres à Niamey, ASN Nigelec contre Sahel SC et Olympique contre AS Douane. Le dimanche, un seul match est prévu, il opposera USGN face à AS Police à Niamey. Studio
Kalangou. Les programmes de Studio Kalangou
à Agadez
sur la radio Nomade FM
101.9 FM à Tillabéri
sur la radio Tébouassi
97.5 FM
à Maradi
sur la radio Garkwa
107 FM
à Filengue
sur la radio Mouria Talaka
95.1 FM
à Difa
sur la radio Enfant
100 FM
Studio Kalangou. Studio Kalangou.
18h passées de 11 minutes, comme promis, la partie magazine de ce journal. Aujourd'hui, à moins d'une semaine de la fête de Ramadan, les tailleurs s'activent pour confectionner les habits de leurs clientes et clients. Au rond-point Maoré, quartier reconnu pour être le fief des tailleurs à Niamey, tous les ateliers ont pris leur disposition pour que tous puissent récupérer leurs habits dans les délais. Railatou Soumana y était ce matin. Voici ce qu'elle nous rapporte.
Dans cet atelier de couture, la concentration est au rendez-vous. Pendant qu'un découpe les pagnes, les uns cousent les morceaux de tissu et les autres en train de finaliser le modèle avec des perles ou de la broderie. Malgré la pluie, dans cet atelier de couture, certaines femmes sont déjà là. Elles attendent de récupérer leurs habits. Cette cliente vit à l'intérieur du pays, mais la distance ne l'empêche pas de confectionner ses habits pour la fête à Niamey.
Il m'a donné rendez-vous, je suis venue prendre mes pagnes. Dans un instant, il me remet ça. En tout cas, ici, moi, j'apprécie sa manière parce que moi, je viens de Tillabéri. Donc, je donne mes pagnes, il me donne rendez-vous. Comme je l'ai reçu avec moi, à l'approche du rendez-vous, je l'appelle, il me dit de venir prendre. Et quand je viens, je trouve mes pagnes OK. J'ai jamais eu de faux rendez-vous avec lui. Comme je viens de loin, et chaque fois j'attire son attention, dire que si je viens et que mes pagnes ne sont pas prêts, il va me rembourser. Il honore vraiment au rendez-vous. On apprécie. Et ça fait longtemps que j'ai fait mes coutures ici.
Chez ce tailleur, environ une trentaine de complets sont cousus par jour. Selon le tailleur, pour honorer les échéances, il dispose de solutions alternatives, même en cas de coupure d'électricité.
Pour le moment, ça se passe bien. Mais on a un petit problème. Comment le problème d'électricité là. Parfois, il y a beaucoup de coupures quoi. Mais avec tout ça, on a pu trouver une petite solution parce qu'on a des groupes électrogènes. Donc, Inch'Allah, on va respecter les rendez-vous. On travaille toute la journée, de 8h à parfois jusqu'à 0h même ou 2h. Parce qu'on a commencé à veiller même pour que les clients puissent avoir leurs habits. 24h sur 24, on est ici.
Une fois que la cliente amène son pagne, le délai pour récupérer sa tenue est de 2 semaines. Donc pour ces tailleurs, pas question de faux rendez-vous.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Il est 18h passé de 14 minutes, l'heure du forum de Studio Kalangou présenté par Alassane Kouzi Mamadou.